Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Solène Figuès de Sainte-Marie, Eric Becker, Tommy Van Oudendink et Pierre-Jean Lougou. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, bien évidemment, les Jeux Olympiques et notamment de la natation avec l'avènement de Léon Marchand, le judo avec Teddy Riner, double champion olympique, triple champion olympique, du cyclisme sous toutes ses formes et nous terminerons avec de l'athlétisme. Nous débattrons ensuite de la présence de certains sports aux Jeux Olympiques et nous terminerons, comme d'habitude, par vos coups de cœur. Alors, on va commencer par la natation et le stratosphérique Léon Marchand. Solène Figuès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet ovni qui a débarqué dans la natation française?
C'est incroyable. Il est arrivé, il est jeune, hein, Léon est très jeune, il est arrivé avec de l'ambition. C'est lui, de son propre chef, qui a décidé de faire le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse sur la même journée. Bob Bowman, son entraîneur, lui a donné l'autorisation la semaine avant. Il attendait vraiment l'état de forme et on le voyait concentré. Son 404 nage était époustouflant quand il est à plus de 4 longueurs d'avance sur tout le monde. Et le 200 brasse, le 200 pape, et pour terminer, le 200 mètres 4 nage, mais c'est exceptionnel. Je suis tellement fière, tellement heureuse pour la France. C'est magique. Je suis très, très époustouflée.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache un petit peu la forêt de la natation française en ce moment? Sur ces jeux, c'est 4 médailles d'or, une médaille d'argent pour Kipirtnichova et une de bronze pour Florent Manodou.
Alors, pour les Jeux Olympiques, on a rarement eu autant de médailles. Par contre, c'est vrai qu'il y avait moins de personnes, mais il y a quand même 3 personnes qui ont remporté en individuel, plus le relais. Donc, ce sont des beaux Jeux Olympiques. C'est sûr, l'équipe de France est allée beaucoup en finale. Il y a beaucoup de finales qui n'ont pas abouti à des podiums. Mais l'équipe de France a relevé le défi. Elle aurait aimé briller plus, mais il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a. Et Léon a irradié de son succès, de sa force et de sa puissance.
On va quand même parler de la médaille de ce matin, puisque c'est quand même la première médaille aussi pour la Calédonie. Donc on l'attendait depuis presque 10 jours maintenant. Maxime Grousset qui fait partie de ce relais. Vous avez eu l'occasion d'avoir Maxime ou pas?
Non, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu non plus ses parents. J'ai eu des échos. Parce qu'il y a des connaissances. Je pense que ça a été difficile, hein, les Jeux Olympiques en France. Il y a une pression de dingue. Tous les athlètes l'ont dit. Hein, y a ce public qui peut à la fois nous transcender, mais à la fois... Ok, il faut que j'y aille, il y a une pression supplémentaire et Maxime a fait des belles courses, pas suffisamment pour la médaille et faut retenir encore une fois le positif, le 100 mètres papillon qu'il a fait dans ce relais à 49 secondes 50, bon c'était en relais, il remonte sur le chinois, il est bien loin devant l'américain, il fait une très très belle course et l'individuel, c'est dur hein, quand t'es sportif d'être toujours sur le top, c'est à quelques centièmes hein, que ça se joue, c'est 4 ans de travail, enfin là 3 ans de travail qui se jouent à quelques centièmes, donc il suffit que le mental, qu'il y ait un mauvais mouvement, un geste, c'est tellement fragile et c'est pour ça que ceux qui sont champions, bravo.
Bon, c'est quand même des belles perspectives parce qu'on a quand même des jeunes nageurs. Léon Marchand, vous l'avez dit, est quand même très jeune, Maxime aussi, donc on a aussi des belles perspectives pour dans 4 ans à Los Angeles.
On a des belles perspectives, encore une fois. Il y a les 4 ans qui doivent passer, il y a l'entraînement, il y a le retour. Hein. Après les Jeux, il y a une année souvent où on se remet en question, des fois on choisit d'autres orientations, des choix stratégiques par rapport à l'entraînement. Donc il y a de beaux projets, mais ces 4 ans, c'est long. Et moi, je leur souhaite toute la réussite possible et de continuer à concrétiser leurs belles performances.
Ok, messieurs, on peut vous interroger sur la natation. Vous avez suivi la natation. Alors, je sais que c'est dur de suivre tous les sports. Hein. On est tous à zapper et à chercher les sports qui nous intéressent le plus. Tommy Van Oudendink, vous avez suivi la natation?
Oui, complètement. Complètement.
Ces performances de Léon Marchand?
Ouais, c'est superbe. Moi, j'ai beaucoup aimé la médaille c'était en papillon hein, qu'il a fait.
Sur le 200 mètres.
200 mètres, ouais. Ouais, sur, magnifique. Hein, donc, et on voit la performance, puisque Christophe passe champion olympique après sur une plus courte distance. Donc ouais, c'était une belle médaille, celle-là. C'est vraiment fait mémorer.
Éric Becker.
Oui, alors une maîtrise fantastique, hein, maîtrise technique, que ce soit en brasse, il a vraiment un petit coup d'avance à chaque fois, sur chaque coulée, la qualité de ses virages, c'est vraiment fantastique, il y a un petit plus à chaque fois, hein, et moi ce que j'aime beaucoup chez ce garçon, c'est ce calme, cette sérénité à chaque fois, on dirait que tous les événements glissent sur lui, alors c'est le fruit d'un travail énorme au niveau mental, hein, comme je dis toujours, il y a l'entraînement physique, mais l'entraînement mental, c'est un entraînement. C'est pas simplement voir un psy de temps en temps. C'est un entraînement complet qui se joue aussi au quotidien.
Est-ce que vous avez vu la réaction de Michael Phelps sur le 200 en papillon? C'était extraordinaire. Ouais. Hein, Michael Phelps qui est devant sa télé en train d'encourager Léon Marchand et hyper content de le voir gagner. C'était extraordinaire, cette réaction. C'est quand même fort d'être adoubé par Phelps qui est 23 fois médaille olympique.
Mais aux US, apparemment, il fait beaucoup d'adeptes. Hein. Il est très suivi.
Solène.
Mais moi, je sais qu'ils sont, ils se sont côtoyés. Et ce qu'a tenté Léon, c'est aussi, Michael Phelps était derrière lui et dire tu peux le faire. Donc on voit cet engouement, ce bonheur en fait que Léon transmet. Et aussi pour vous dire, c'était pas si facile que ça. Il est très doué, mais il a un sacré mental. Et c'est génial et ça fait plaisir et c'est la magie du sport de faire un effort et d'avoir tout ce public champion français, monsieur tout le monde, et je pense qu'il se rend pas encore compte de la vague qui le suit derrière lui, de cet engouement qu'il donne, et on en est tous hyper fiers.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, deux médailles le même jour, c'est le premier nageur à faire ça dans les Jeux Olympiques. Deux médailles d'or le même jour, c'est quand même
incroyable. Médailles d'or, alors pour la petite histoire, c'est donc lui qui a voulu avoir ces deux médailles. Normalement, il y avait 15 minutes entre le 200 mètres brasse et le 200 mètres pape. Ils ont fait une demande un an avant au CIO, pour que le Comité International Olympique, pour qu'il y ait 90 minutes. Et même si la demande a été faite, en tant que nageur, tu ne sais jamais dans quel état tu vas te trouver. Donc, une semaine avant, il a eu l'adhésion de son entraîneur. Et puis même les 48 heures avant, des fois, tu peux avoir un petit coup de fatigue des jambes, mais on ne sait pas trop comment le corps va réagir. Et on le voyait, hein, déterminé sur son objectif, mais à la fois avec cette bouille et cette sérénité. Toutes ces interviews, moi, j'ai adoré.
Éric Becker, vous l'avez dit, on a l'impression que ça glisse sur lui. Mais je trouve qu'il a... apprivoiser ces 17 000 personnes avec un calme et une sérénité. Il a réussi à en jouer. On le voyait rentrer à la présentation de chaque course. Il regardait le public, il n'était pas tête basse, il était là, conscient des choses. Et on avait l'impression qu'il se nourrissait complètement de ça. Non, Pierre-Jean ?
Ouais, bon, en tout cas, moi j'ai suivi un peu les performances là, de Léon Marchand. Là. Moi, ce qui m'interpelle un peu, on dit souvent hein, chez les champions, en fait, ils sont totalement à part. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre lorsqu'il arrive. Moi, je suis pas surpris, parce que quand je me suis un peu renseigné sur lui, on me dit comme ça que bon, déjà, il a intégré, je crois que c'est l'entraîneur de Bob Bowman. L'entraîneur de Michael Phelps. Je vois un peu des similitudes, moi, avec Rinner, parce qu'en fin de compte, il est très suivi, a priori, en termes, je dirais, dans la préparation mentale. Donc ça c'est signe quand même d'intelligence sportive, déjà. Parce que souvent, un sportif, on se dit, bon, des fois, on n'est que sur le physique, hein, comme tu disais, Eric, là. Mais on oublie souvent cette préparation, face à des événements. Moi, je trouve que, bon, de toute façon... Et on n'est qu'à ses débuts. Il fait déjà 4 médailles olympiques. Je pense qu'on est parti pour de belles décennies avec Léon Marchand. Là. Donc, et c'est beau pour la natation française, surtout. Parce que même au-delà des résultats qu'ils ont faits, on a un leader mais maintenant incontesté. Hein, même si derrière, on avait Max qui était quand même aussi bien préposé à ça. Mais en tout cas, moi, on ne peut que lui souhaiter, à Maxime surtout, après ce qu'il a fait, voilà, de poursuivre et de suivre ce chemin. Quoi, hein.
Solène Figuès, est-ce que Léon Marchand est la star de cette natation des Jeux Olympiques ?
Alors, Léon était déjà le meilleur nageur mondial de l'année dernière. Et c'est la star. Bon, il y a quand même Cathy Ledecky. Là. Il y a du monde. Hein, et il y a eu beaucoup de champions qui ont été plusieurs fois médaillés. Donc, moi, je suis quand même pro-française. Donc, je vais dire c'est la star parce que c'est exceptionnel ce qu'il a fait.
Moi, je regardais combien de quadruples médaillés. En natation, effectivement, les Australiens et les Américains, il y en a 4 ou 5.
Ouais. Ouais.
Donc, quadruple médaille, il y en a quelques-uns. Hein. Ouais. Donc, effectivement.
Bon, on retiendra que pour nous, c'est la star.
Oui, la star française. Star.
Voilà. Ah oui.
Il fait partie quand même des 4 hommes à avoir amené 4 médailles. Ouais.
Et c'est surtout la façon dont il l'a fait. Il avait un programme qui était hallucinant. Quoi. Ouais. Quand on regarde 200 brasses, 200 papes, mais... Bon, il y a Solène qui est là, mais c'est deux disciplines qui sont terribles au niveau musculaire. Quoi, hein, donc,
incroyable.
Et là, aux 200 papes, il fait un retour de Diablo Vauvert, là, il revient sur la fin. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le scénario qui va avec. Quoi. C'est pour ça qu'on peut dire, pour nous, c'est la star.
Si on accepte le relais de ce matin, 4 courses, 4 médailles d'or, 4 records olympiques. Je pense qu'on a quand même posé un petit peu le décor. Non, donc je pense qu'effectivement, ça... Ça permet en tout cas de terminer cette page de natation de la plus belle des façons pour ces Jeux Olympiques. On va passer à un autre monstre, des tatamis cette fois-ci, Teddy Riner, indestructible. Pierre-Jean, c'était incroyable aussi bien sur l'individuel que le par équipe où le scénario a été hollywoodien, je dirais. Et c'est Teddy Riner qui amène la médaille par équipe, c'était fabuleux.
Ah ouais, je sais pas si on a encore des superlatifs hors normes, extraordinaires, immenses. Non, je pense qu'on peut être fier. Moi, en tout cas, en tant que judoka, je pense qu'on est très fier, surtout de ce qui a été mis en place là, au niveau de la fédération, les résultats. Il faut se rappeler que l'objectif de la fédération française de judo, c'était 10 médailles sur cette Olympiade. C'est énorme.
C'est
énorme.
C'est
ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même, alors même pour être très honnête avec vous, hein, en tant que judoka, lorsque la Fédé nous annonce 10 médailles d'or avec un remaniement à 5 mois des Jeux d'une équipe, du moins du staff de l'équipe de France de judo, on se dit bon. Il y a des repères, pareil pour Teddy, il y a 5 mois de ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a son entraîneur de chaise qui change. Il est allé chercher son entraîneur, Christian Chaumont, là, au Maroc, hein, celui qui l'entraînait sur le Valois. Donc beaucoup de changements, on se disait, mais comment ça va se passer? On va encore se reposer sur les filles, sur l'équipe féminine. Et au bout du compte, on voit que cette équipe de France, elle nous a fait vibrer, elle nous a fait plaisir, elle nous a donné beaucoup d'émotions, surtout pour un sport comme le judo. Avec beaucoup d'adversité. Donc oui, très très, on va dire, surpris, mais surtout d'avoir vibré autant, parce qu'on s'est aperçu que, au final, on attendait plus chez les filles, et les filles ont été un peu en deçà. Hein. Je prends l'exemple de Clarisse, donc Clarisse... Même si pour ma part, il y a un petit litige au niveau de l'arbitrage, mais on va respecter ce qui a été mis en place. Voilà, Romane Dicot en lourde aussi, qui répond présente, elle fait une médaille, mais c'était peut-être pas celle qu'on attendait. Voilà, on était jusqu'au bout. Et par contre, les garçons, comme je vous le disais la fois dernière, hein, c'est que 2 médailles hein, chez les garçons hein, depuis les Jeux de Sydney. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont répondu présent avec une équipe qui a été totalement remaniée avec des jeunes et avec un jeune qui fait son beau parcours olympique, Johan Benjamin Kaba, qui fait vice-champion olympique en moins de 73 et qui est aussi l'artisan de la remontada, surtout sur les équipes, bien entendu. Et bien entendu, Teddy qui répond présent, mais doublement. Je veux dire, il prend, on va dire, sur sa finale individuelle, le japonais qu'on attendait en plus. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la manière, la manière dont il a fait. Je parlais par rapport aux équipes, parce qu'il a repris deux fois Saito. Je pense qu'il est, pour revenir sur Teddy, je pense que c'est quelqu'un. Si vous en rappelez, lorsqu'il était venu ici en Calédonie, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est ce qu'il est lorsque vous le voyez à la télé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il sait où il veut aller. Par contre, qui est très méthodique, il sait comment s'organiser autour de lui. Il n'a pas peur de changer, ça c'est clair. Et il va jusqu'au bout de ses idées. Et par contre, il doute énormément. J'ai eu Laurent Caléja hein, qui était sur le tapis avec lui. Il m'envoyait des photos, il était en train de dormir, il était... Sur le premier combat, il me disait, mais c'était impressionnant. Comment il se mettait déjà dans sa bulle en sachant bien qu'il avait donc une page d'histoire à aller chercher. C'est-à-dire que là, pour la petite histoire, pour lui, c'est le... Maintenant, il égalise le plus grand, on va dire, judoka olympique qui avait gagné 3 titres, c'était le japonais, donc en moins de 60 kilos. Voilà,
dans une autre catégorie, Nomura. Absolument.
Sauf que là, maintenant, là, il vient de prendre 5 titres olympiques, 3 titres en individuel et 2 titres olympiques par équipe. C'est hors norme, c'est... Voilà ce qu'on peut dire.
Alors là où on peut encore plus savourer le titre par équipe, c'est que c'est face aux Japonais. C'était pour la revanche, un des championnats du monde que les Japonais gagnaient, deux de la revanche olympique d'il y a 3 ans. Et la France a gardé son titre chez elle.
Mais la France, elle garde son titre chez elle, mais surtout avec la manière. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, moi, à 4h30 du matin, j'étais en train de crier partout. Excusez-moi, j'avais l'impression qu'on vivait, mais vraiment, je dirais... Un film, je dirais, qui était, on va dire, écrit de manière à ce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que même jusqu'au bout, une remontada, c'est-à-dire que les 3 premiers judokas, donc il faut le rappeler, on pensait que, bon, on allait pouvoir s'en sortir avec les filles, que les filles allaient revenir un peu par rapport à la semaine qu'elles avaient vécue. Et finalement, non, Roman, elle répond pas, malheureusement, elle perd.
Elle se fait cueillir, ouais.
Sarah Léonie, elle perd. Le petit Max, Maxi, donc il perd, mais quoi qu'il en soit, il était aussi face, j'irais, à Murao, donc le japonais. On était à 3-0.
On est à 3-1. On est à 3-1.
Non, mais et Teddy qui rentre. Teddy qui rentre, qui ramène l'équipe à 3-1. Et c'est là où, ben. On a ce phénomène là qui arrive, parce qu'en fait on voit qu'on a un jeune de 23 ans, Johan Benjamin Kaba, hein, qui pour tout le monde, on va dire, dans le début de semaine, on a l'impression que bon, peut-être qu'il a surpris, il fait vice-champion olympique. Non, mais il ne faut pas oublier, là, le judoka qui prend, c'est le double champion olympique en titre, c'est Ifumi Abe. Parmi les judokas, on sait tous que derrière Riner, il y a Ifumi Abe, il y a aussi Ono. C'est la star. Il n'a pas perdu depuis 5 ans. Mais la manière dont il sort ça, on se dit, non, bon, bah après, surtout Clarisse qui termine.
En golden score.
En golden score, qui remet l'équipe à 3-3. Et c'est là où on dit, mais même à la loterie, Riner, il gagne. Non, il y a un tirage au sort, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne pour revenir, pour départager l'équipe. Non, mais c'est phénoménal, c'est immense. Ouais, voilà.
Sur un golden score aussi. Sur un golden score. Il n'y a pas de combat de 4 minutes. Voilà, c'est un golden score qui dure 6 minutes.
6 minutes. 6 minutes. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant le golden score, lorsqu'ils font égalité, en fait, c'est le premier qui marque. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre, ça y est, hein, c'est le premier qui marque. Il n'y a pas une phase de combat et ensuite une phase de golden score.
Quelle que soit la marque. Hein,
quelle que soit la marque.
Pas nécessairement à Ippon.
Exactement. Donc voilà, on peut dire que ces jeux ont été magnifiques. Franchement, ça fait du bien au judo français. Hein, et je pense que personne n'attendait, je dirais, cette équipe de France. Là, je pense qu'on était... avec cette nouvelle présidence, hein, qui nous a annoncé 10 médailles. Alors effectivement, ben on comptait plus sur les filles, mais là on s'aperçoit que les garçons ont répondu présent, et de la manière en tout cas.
On a aussi une équipe jeune, un peu à l'instar de la natation, donc c'est aussi prometteur pour dans 4 ans à Los Angeles, où Teddy Riner a dit qu'il voulait être.
Ah ben en fait, il a dit qu'il voulait être, j'ai eu Laurent là, donc son manager, donc on a échangé. C'est intéressant, hein, parce qu'en fait, il se projette déjà. En fait, il est déjà, pour lui, tant qu'il a envie, tant qu'il se fait plaisir, tant qu'il a une équipe derrière qui l'accompagne et qui le suit, Teddy, il va dérouler. Maintenant, on verra
la suite. Il aura 39 ans.
En tout cas, lui, ce qu'il veut, son prochain objectif, c'est de gagner les championnats d'Europe par équipe. Alors, ça paraît, il vient de gagner les Jeux Olympiques. C'est le seul titre qui lui manque dans sa besace. Et par contre, ce qu'il annonce là, c'est surtout avec l'équipe qui vient d'être constituée, c'est-à-dire c'est cette équipe de France là, de mix là, pour lequel même lui avoue avoir fait en sorte d'avoir œuvré pour que Johan Benjamin Kaba soit dedans et aussi le petit Max là. Donc voilà, donc on voit que là, voilà, il veut y aller, mais pas à n'importe quel prix quoi. Hein.
Alors ce qui était beau aussi, je trouve, dans cette compétition mix de judo, qui est vraiment une trouvaille extraordinaire, qui n'existe que depuis 2 Olympiades,
c'est ça.
C'est que là, tous les judokas de chaque équipe ont été récompensés, même ceux qui n'ont pas combattu. Donc c'est agréable de voir les 14 judokas présents sur le podium.
Exactement, parce que si vous voulez, je trouve que cette compétition, elle est très intéressante et très innovante. Lorsqu'on aligne 6 judokas, 3 filles, 3 garçons, avec 3, du moins 6 catégories, on propose, on va dire, au pays de pouvoir proposer 14 judokas sur les listes. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsque vous regardez la finale France-Japon, la petite Sarah Léonie Sizik, qui est en moins de 57 kilos, elle perd contre la championne olympique en titre de moins de 48 kilos. Teddy Riner avec la Corée qui prend un judoka qui était en moins de 80 kilos. Donc c'est un jeu, vous voyez, ils sont vraiment dans une stratégie à savoir qui on va mettre, voilà. Clarisse qui rentre que pour la finale, vous voyez. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de récompenser toute une équipe, hein, au-delà, je dirais, des 6 combattants qui sont à chaque fois.
Ce quoi. Qui n'avait pas été le cas à Tokyo.
C'est aussi pour ça que je le précise, c'est vraiment
récompenser toute l'équipe, c'est quand même quelque chose de fabuleux.
Alors pour la petite histoire et pour finir, vous savez que même nous à l'époque aussi, donc de l'équipe de Kainu de judo, on était précurseurs sur ça. C'est-à-dire que pendant les jeux aussi qui sont passés, il y avait des combattants, par exemple à Guam, hein, où il y avait l'équipe qui combattait et ceux qui ont fait la finale, mais c'est toute l'équipe qui avait été récompensée aussi. Donc je trouve bien qu'au niveau olympique, voilà, surtout par rapport au judo, ben, on suive cette voie.
Merci, on va enchaîner avec le cyclisme. Alors je disais en préambule sous toutes ses formes, parce que là, l'actualité, Tommy Van Oudendijk, elle est dense. On peut parler de VTT, on peut parler de BMX, on peut parler de BMX Racing, on peut parler bien évidemment de la course en ligne. Le cycliste français est en pleine forme.
Oui, et je crois que parmi toutes les disciplines qui sont en jeu, je pense que c'est la discipline où il y a la plus grande diversité quoi, en fait, entre ces sports-là qui n'ont rien à voir. C'est des athlètes complètement différents avec des spécificités. Voilà, dans la natation, on a le plongeon, on a la natation en bassin, on a la roue libre, etc. Mais il y a voilà, le vélo, et c'est quand même à souligner. Je regardais, on a Tokyo zéro médaille et on est à 8. Donc on a quand même un cap qui est hyper important. C'était inespéré, quoi, autant de médailles dans toutes les disciplines. Le freestyle, la race, le VTT, hommes et femmes, les courses routes. On fait quatrième sur le contre-la-montre individuel femmes aussi, quatrième au pied du podium, donc c'était pas loin. VTT, on aurait pu aussi faire une autre médaille, mais bon, avec Dessy, on refait le monde. Et c'est pas fini, il nous reste les épreuves pistes qui commencent là cette nuit. Donc je pense qu'on a potentiellement deux chances de médaille chez les femmes, avec Mathilde Gros et une autre féminine en sprint. Donc ça va être moins évident peut-être sur la piste, parce que c'est pas non plus là où on est les meilleurs, mais oui, c'était osé de faire une épreuve route en plein Paris. C'était magnifique comme image, comme public, etc. Le VTT aussi superbe, et puis les 3 médailles, le triplé en BMX Race.
Incroyable.
Je pense que ceux qui l'ont suivi, même ceux qui connaissent pas la discipline, ont pareil, des émotions qui sont venues, et quand on voit ça, la fête, la célébration, ouais, c'était beau à voir.
Alors Sur ce triplé incroyable, j'ai adoré l'image où le vainqueur, dont j'ai oublié le nom parce que je me suis embrouillé dans les 3,
Joris Donnet,
se retourne pour voir, pour être sûr que son pote fait 3e.
Les deux premiers se retournent.
C'est incroyable.
Regardez, c'est le 3e y est aussi.
C'est vrai que le 3e, il y a eu une chute à un moment où il aurait pu tomber.
Et pour la petite histoire, il y a 4 ans à Tokyo, ils étaient pareil, ultra favoris, et ils sont 4 Français au départ sur 7, et ils se bousculent. Et il y en a 3 qui vont au tapis. Et ils font pas une médaille. Donc, c'était la grosse déception parce qu'en BMX, on est depuis de nombreuses années, les Français, sur le toit de l'Olympe, comme certains disent. Mais voilà. Donc là, on était ultra favoris. Alors, pour une médaille, voire 2, mais peut-être pas les 3. Et c'est quand même hyper technique et hyper sensible. La chute, elle est pas loin, quoi, à chaque fois.
Éric Becker, vous avez suivi ces épreuves différentes de cyclisme ?
Ah oui, alors moi, j'ai, comme dit Tommy, moi, j'ai adoré le BMX. Je regarde de temps en temps des Coupes du Monde, mais vite fait. Mais là, j'ai suivi tout du début à la fin, et j'ai adoré cette épreuve. Et on a l'impression, quand on regarde assez rapidement, on a l'impression d'avoir des gamins qui jouent avec des vélos, mais quand on voit la puissance qu'ils développent, c'est extraordinaire au départ, etc. Et ils finissent tous. Ils sont tous allongés, mais ils sont tous carbo, comme on dit chez nous. Non, c'était phénoménal, et le scénario extraordinaire. Et bon, en plus, quand on voit que l'Australienne qui gagne derrière, c'est la femme d'un des Français, donc je trouve ça pareil, une histoire, une belle histoire encore.
On a aussi 2 médailles qu'on n'attendait pas forcément sur route. Derrière l'intouchable, j'ai envie de dire, Remco Evenepoel, qui est peut-être dans la forme de sa carrière, puisqu'il prend la médaille sur le contre-la-montre et la médaille sur la course en ligne. Deux Français derrière.
Complètement. Et j'entendais les cyclistes sur route, justement chez les hommes, qui étaient au village olympique ou qui étaient au logement avec les gars du BMX, et qui disaient, on a discuté avec, et puis ça génère une euphorie, quoi, je crois, dans les équipes de France, et puis là où ils sont, qui est un cercle vertueux, quoi. Et Donc ils avaient à cœur de bien faire, ça c'est sûr. Ils visaient même l'or, hein, mais après, c'est pour le coup là plus une course par équipe parce qu'ils sont plus suffisamment. 4, c'est pas beaucoup pour faire une stratégie d'équipe. Mais oui, Remco, extraordinaire, donc intouchable, impossible de rivaliser, malgré une crevaison à 3,8 km, je crois, en plein milieu du Louvre. Extraordinaire. Et là, un coup de chance aussi. Enfin, un coup de chance. Il avait une minute d'avance sur le poursuivant, qui était français, et il y a la voiture qui est de dépannage qui est autorisée à dépanner s'il y a un écart supérieur à une minute. Donc la voiture était juste derrière. S'il y avait eu moins, peut-être qu'il loupe le titre pour ça, quoi. Donc on n'a pas vu beaucoup de crevaisons sur ces routes, malgré qu'il y avait beaucoup de pavés. Mais oui, donc c'est une belle médaille pour les Français aussi sur route. Ouais.
Et le public et le circuit étaient magiques.
On parle d'un demi-million de spectateurs, ouais. Je crois.
Oui, 500
000 spectateurs. Il y a eu autant chez les féminines dimanche, donc c'est ça qui est... Ça me tenait à cœur qu'il y ait aussi beaucoup de public pour les filles, parce qu'elles méritent tout autant, et c'était une course magnifique où on voit une Marianne Vos. Enfin, il y a une rivalité entre Pays-Bas et Belges qui est phénoménale. Enfin, en vélo, où ils ne veulent pas que l'autre gagne, quoi. C'est terrible. Et ouais, donc c'était magnifique.
Finalement, avec cette ambiance, on a un peu retrouvé l'étape des Champs-Élysées qu'on n'a pas eu cette année.
Oui.
En termes d'ambiance.
Ouais, il y en a qui disent il faudrait faire ça tous les ans pour le final du Tour de France, mais c'est quand on voit le circuit avec des barrières tout du long. Je crois que le circuit faisait plus de 13 km, mais avec des barrières des deux côtés. Mais c'est en termes de logistique, je ne crois pas qu'on se rend compte de la difficulté que ça doit être, quoi, avec un nombre de bénévoles impressionnant là-dessus.
Pierre-Jean ?
Non, mais ça montre surtout toute l'organisation des Jeux, le travail de Tony Estanguet et son équipe. Moi, ça me fait rire parce que je me disais juste avant les Jeux, il y a eu beaucoup de critiques, et maintenant on s'aperçoit qu'en fait ils ont répondu présent, quoi. C'est des magnifiques Jeux, quoi.
C'est clair, en termes d'organisation, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire. Solène ?
Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est du point de vue des spectateurs, j'ai beaucoup de retours des gens qui m'écrivent, qui me disent mais c'est incroyable, même nous, tout roule. On peut aller sur tous les sites avec une facilité. Donc les spectateurs sont heureux, toutes les courses sont bien organisées, donc ils ont relevé le challenge et un grand bravo à toute cette équipe organisatrice, et très fière.
Vous êtes en train de dire qu'on peut circuler dans Paris facilement ?
On peut être très bien organisé si on le souhaite.
Il n'y a plus de Parisiens, c'est mieux.
Il va falloir y réfléchir. Plaisanterie mise à part, on va passer à l'athlétisme parce que l'heure tourne. On va commencer par des déceptions françaises. Hein. Thibaut Collet qui s'est pas qualifié pour la perche. On a Mackinson Gletti où on attendait un peu mieux, même si c'est ses premiers jeux en décathlon, qui fait 12e. Kevin Meyer, malheureusement, n'a pas pu s'aligner. C'était un peu dur ce début de session d'athlétisme, Eric Becker.
Oui, alors effectivement, le début est un petit peu difficile. Alors oui, c'est vrai que la plus grosse déception, c'est effectivement Thibaut Collet, parce que à la perche, c'est un petit peu une discipline traditionnelle française.
De famille.
Donc voilà, on n'est jamais sorti. Il y a toujours eu des perchistes aux Jeux Olympiques. Et là, eh bien, un petit peu à l'instar, je dirais, de Maxime, qui s'est un tout petit peu raté sur sa finale. Eh bien, Thibaut Collet, il s'est raté un petit peu sur les qualifications. Il faut savoir que les qualifications, ben, c'est souvent le matin. Faire une performance et mettre bout à bout tout un tas de petites choses. Et là, il lui a manqué. Apparemment, il ne se sentait pas trop bien. Mais bon, est-ce que c'est peut-être la pression de l'événement aussi, les spectateurs donc voilà. Pourtant, sur son troisième essai, on voit qu'il est bien, bien au-dessus. Mais là, s'il retombe sur la barre, il manque un peu de pénétration dans le sautoir. Mais bon, il est jeune, il est en pleine progression, hein, et il a fait 5,93 il n'y a pas très longtemps, donc je pense que c'est un raté qui est dommage parce qu'il tombe mal, mais bon, je pense qu'il est en devenir. Voilà, pour Mackinson Gletti, il s'est un petit peu manqué sur les trois premières épreuves du décathlon, mais après il s'est bien repris, donc signe qu'il ne s'est pas complètement, il s'est pas écroulé. C'est son deuxième grand décathlon, pardon. Donc voilà, il fait quand même un beau score au final. Hein, donc 12e, effectivement, c'est pas tout à fait... On pensait qu'il pourrait rentrer dans les 8, on pouvait penser qu'il ferait finaliste. Mais bon, c'est un très bel athlète et je pense que c'est la relève de Teddy Riner.
De Teddy
De pardon.
Bon. Pierre-Jean, il va falloir mettre Mackinson Gletti au judo.
De Kevin Mayer.
Voilà, à force de regarder tous les sports, on finit par s'embrouiller. Hein. C'est difficile à regarder toutes les nuits. On a quand même des bonnes nouvelles côté français, avec quelques qualifs en finale, et notamment celle de Mélina Robert-Michon, notre porte-drapeau, qui est qualifiée assez facilement, je dirais, pour la finale du disque.
Tout à fait, elle fait une très belle perf, hein, puisqu'elle fait quasiment sa meilleure perf de l'année. On a également en finale, on a Liz Fino qui est pour le 3000 steeple, on a sur les haies, donc Sacha Zoya qui est qualifié pour les demi-finales, donc je pense qu'il va faire mieux, il va aller en finale, parce que c'est vraiment un athlète jeune et vraiment extrêmement talentueux. Donc on a aussi sur le 800 mètres Tual, donc qui a un finish redoutable et qui a fait champion au dernier championnat d'Europe. Donc je pense qu'on a pas mal de jeunes Français qui sortent. Hein. Maraval sur le 400 et féminin. Donc Alice Fino, je disais, sur le 3000 steep. Donc on a quand même Sirena Mayela qu'on attend sur le 100 et. Bon, qui a eu le Covid dernièrement, il y a 3-4 semaines. Donc elle n'est pas encore au top, mais je pense qu'au fur et à mesure des qualifs et demi-finale, finale, je pense qu'elle va faire quelque chose.
Bon, ce matin, on a assisté à la finale du 100 mètres que la moitié de la planète doit regarder pendant 10 secondes. La Terre s'arrête avec une victoire donc, de l'Américain Noah Lyles qui se joue au millième. 9,794 pour lui, c'est ça, et 9,799 pour Thompson,
c'est
le Jamaïcain.
C'est ça, voilà, 5 millièmes effectivement, donc une course magnifique, surtout par sa densité. À savoir que les 8 athlètes, je crois que c'est la première fois aux Jeux Olympiques, se rentrent en 11 centièmes. Donc c'est exceptionnel. Et Noah Lyles, effectivement, au 30 mètres, il est 8e. Au 60, il est 3e. Et puis à l'arrivée, ben, il est 1er. Donc on voit un petit peu le coureur de 200. Mais bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Thompson, le Jamaïcain, pensait avoir gagné. Moi, j'étais persuadé aussi qu'il avait gagné. Et donc ça se joue vraiment à très très peu, une course magnifique.
Le dernier étant 9,92.
C'est ça, voilà. C'est ça. Donc tous sous les 10, c'est vraiment exceptionnel. Quoi.
Ça a été très très vite. La veille, c'est l'athlète de Sainte-Lucie, Julian Alfred, qui avait remporté ce 100 mètres au nez et à la barbe de Richardson et Jefferson, les deux américaines qui avaient plutôt dominé les stats mondiales depuis le début de l'année. Belle perf parce qu'elle gagne bien quand même.
Tout à fait, donc elle, championne du monde du 60 mètres, et vraiment, elle les a vraiment dominés hein, de manière redoutable, elle finit bien devant. Bon, on peut regretter que nos deux Jamaïcaines,
Sheila
Price et Helen Thompson, ne soient pas là pour mettre un petit peu de un peu plus de piment, mais bon, elles sont plutôt, on va dire...
Sur la fin de leur carrière,
et donc elles ont été blessées pas mal de temps. Mais bon, voilà, c'est une jeune aussi qui monte, hein, Julie Alfred. Hein, et puis ça fait plaisir, une athlète de Sainte-Lucie, une toute petite île.
200 000 habitants.
Fantastique. C'est
première médaille d'or, première médaille tout court d'ailleurs pour Sainte-Lucie. Donc c'était beau. Qui a regardé la finale du 100 mètres ce matin autour de cette table?
Moi.
Solène. Alors, impressionnant. Vos impressions?
Ouais. Ah ouais. Un dixième de seconde.
Et moi, je l'ai regardé en rediff. Hein.
C'est l'avantage du 100 mètres, c'est que c'est plus facile à regarder. Voilà, on va passer à vos coups de cœur pour terminer cette émission. Alors on va juste, avant vos coups de cœur, rappeler que l'équipe de France a déjà battu son record de médailles de Pékin. Hein, je pense qu'on peut le dire, on peut faire un cocorico. 44 médailles au moment où on parle, 43 à Pékin. Bon, on excepte les Jeux de 1900 où il y avait 102 médailles. Hein, je pense qu'on est tranquille avec ces stats, on ne devrait pas les revoir tout de suite. Donc voilà, les Jeux, il reste une semaine, donc ça laisse augurer... un bilan plutôt positif. Tommy nous a promis 2 médailles sur la piste. Donc,
Et en athlée encore.
Voilà, j'espère que l'équipe de France va continuer à performer. On va dire un petit mot de nos Calédoniens quand même, puisque cette semaine va avoir lieu la compétition d'escalade de vitesse où on va mettre toute notre énergie avec Bassa pour avoir une deuxième médaille calédonienne.
Croise les doigts. Ouais.
Vos coups de cœur, on va commencer par vous, Solène.
C'est toujours horrible. Moi, je vais donner mon coup de cœur à Tony Estanguet.
Voilà. Tommy,
pas mal. Ouais, c'est difficile aussi, hein, y en a tellement. Alors moi, je m'autorise, et tu m'autorises, d'en faire deux. Un pour un homme et un pour une femme. Il y avait la gymnase Simone Biles, que je trouve magnifique à voir, et pas de marais. Et puis après, c'était un sujet sur le professionnalisme. Novak Djokovic. J'ai vu les images et en fait, voilà, des gens qui courent pas vraiment après ça, que c'est honorifique peut-être pour eux. Et quand on voit l'émotion que ça procure, je trouve ça beau, quoi. Les valeurs de l'olympisme dans toute sa splendeur.
Pierre-Jean.
Ouais, même si j'aurais pu être chauvin, dire un coup de cœur pour le judo français, pour Teddy Riner et tout ça. Non, mais je vais rejoindre le petit coup de cœur calédonien pour Max, là. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, je pense, toutes ces structures-là qui amènent à la performance. Je crois qu'il voilà, ne faut pas qu'il se décourage. Hein. Il est quand même médaillé olympique, même si on attendait beaucoup de ce jeune-là. Mais en tout cas, voilà, il est jeune encore. Et je pense qu'il voilà, faut saluer cette performance, surtout pour un Calédonien. Et on encourage surtout donc, à continuer. Voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur, en tout cas.
Allez, go Max.
Alors moi, des coups de cœur, bon, pour les athlètes, il y en a tellement. Donc je ne pourrais pas en ressortir un plutôt qu'un autre. Je vais donner un coup de cœur au public, moi, au public français, à cette ambiance magnifique, parce que c'est, Tommy disait tout à l'heure, le Tour de France, c'était similaire au Tour de France, les épreuves de cyclisme, la natation, c'est pareil, il y a un bruit, j'écoutais Malia Metella qui disait, elle sentait tout vibrer, elle dit, les nageurs, je suis sûr, dans la piscine, ils sentent vibrer, donc... C'est extraordinaire. Donc voilà. Et autre chose qui sort un petit peu, c'est pas le public, mais il y a une émission que je trouve extraordinaire, c'est Quel jeu le matin avec Laurent Louya et Léa Salamé. Je me régale, il y a une ambiance, il y a des gens différents qui sont invités.
Club France.
Le Club France, voilà. Donc moi, je trouve ça extraordinaire.
Voilà, on voit bien que ces Jeux Olympiques, finalement, touchent toute la population française et que tout le monde est complètement à fond derrière et les Jeux et l'équipe de France.
Et ça fait du bien, je pense, surtout aux Français, à tout le monde, hein, surtout dans les périodes là. Ça redonne beaucoup d'espoir et une ferveur aussi.
Et on a quand même les ultramarins qui apportent beaucoup à l'équipe de France. Quoi. Donc, il faut le souligner aussi, je pense.
Et bien, voilà, ça sera le mot de la fin pour vous, Tommy. Merci à tous les quatre d'avoir été présents ce soir. Merci. À la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable consacrée aux Jeux Olympiques.